Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Il y a des gens que ça qui aiment manger et il y a des gens que ça obsède, tu vois. Enfin, il faut quand même une certaine obsession, je pense, pour le goût et la cuisine, pour être convaincu, tu vois, quoi qu'il en soit, que c'est une bonne chose d'y aller.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc,
Bouffon ?
À manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher de leur plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes. Aujourd'hui, un épisode de Bouffon un peu spécial, puisqu'on reçoit pas deux, mais plein d'invités. Entre foodies, dans pire début de phrase, je refais. Quand je croise des potes ou d'autres passionnés de bouffe, parfois tombe la question « Et toi alors, t'as déjà fait un étoilé ?» Et si la personne dit « Bah ouais, grave », s'ensuit une heure de conversation où on s'échange des souvenirs, les yeux encore humides. Les étoiles, qui sont la note ultime du fameux guide Michelin, pour rappel...
Rouge est très connu, le guide. Y figurer en bonne place, c'est-à-dire bardé d'étoiles, est une consécration. Leur nombre est sévèrement contrôlé, même si...
Il n'y a pas de quota.
Un Graal pour certains restaurateurs, leur but en être. Un Graal aussi pour les amateurs, leur but en faire un. D'ailleurs, pour info, il y a seulement une centaine de restaurants qui ont au moins deux étoiles en France. Et moi, j'ai eu la chance d'aller chez Alexandre Couillon, à la Marine de Noirmoutier. Et c'est un truc que je souhaite à tout le monde. Alors, évidemment, dit comme ça, c'est facile... Rassurez-vous, je ne vais pas ignorer le fait que ça a un coût important. Et souvent, des gens disent « Attends, 300 euros juste pour manger quand même ?» Et j'ai envie de leur dire « pas vraiment. » Pas remettre en question le fait que 300 euros, c'est énormément d'argent. Sur ça, on est d'accord. Mais dire que c'est pas juste manger, mais qu'il faut considérer cette dépense comme on considérerait, par exemple, un voyage ou un truc un peu futile de collection.
Ce qui vaut le coup dans ces restos-là, c'est que c'est très loin d'être juste de la bouffe. C'est vraiment une expérience plus globale. Et donc ça émeut.
Je me suis dit qu'on était souvent sollicités pour des cagnottes qui financent des voyages, des pots communs de VJF qui finissent en sac à main, ou des séjours au spa d'anniversaire, et que c'était trop rare qu'on collecte l'argent de ses potes pour aller se faire un repas d'exception. Alors souvent par manque d'argent, aussi par peur de pas y avoir droit. L'impression qu'on va se faire juger ou qu'on va pas comprendre le repas qui va nous être présenté. Et c'est dommage, enfin c'est dommage selon moi. Pour essayer de vous montrer que ça vaut le coup, j'ai voulu réunir des gens qui y sont allés. Ils s'appellent Thomas, Victoria, Ivan ou encore Léo. Ils sont journalistes, restaurateurs, ils ont entre 25 et 35 ans et ils y allaient tous pour la première fois, pour une sorte de coup de folie de passionnés. Et j'ai voulu retrouver la ferveur de nos conversations qu'on a eues hors micro pour ce qui serait en quelque sorte le service après-vente de Chef's Table. En fait, on va faire cet épisode comme un guide. Bouffon vous accompagne tout au long d'un voyage vers la très haute gastronomie. Et étape par étape, nous allons vous expliquer comment profiter au mieux de cette expérience et vous montrer pourquoi elle vaut le coup d'être tentée. Alors d'abord, vous allez devoir faire un choix. Celui du restaurant qui vous nourrira en échange d'une bonne partie de vos économies. Un tel investissement, ça ne se choisit pas n'importe comment et il faut avoir quand même des infos. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'achète un appareil photo par exemple, je passe environ un mois à comparer absolument tous les avis que je trouve sur Internet. Bah là, il va falloir faire un peu pareil. Un conseil que partage aussi d'ailleurs Léo, qui est allé avec sa copine à L'Aïole, dans l'Aveyron, chez Sébastien Bras.
Si quelqu'un n'a jamais été dans un grand restaurant, et qui... J'aurais juste d'être un peu curieux, tu vois, de préparer un peu le truc en amont. Alors, c'est Sébastien Bras et son père Michel, il y a beaucoup de documentation, mais... Donc, c'est peut-être assez accessible, mais t'en as où il faut un peu aller fouiller, il faut... Et puis, c'est une histoire de terroir aussi. Je pense que chaque restaurant... en dehors de Paris, et parfois même à Paris, raconte aussi l'histoire d'un lieu et d'un environnement et de, voilà, d'une saisonnalité, de qu'est-ce qu'on mange dans cet endroit-là. Et rien que de s'intéresser à ça permet de comprendre aussi la cuisine qu'on te sert le jour J.
Alors ça, c'est sur le papier, et j'adorerais vous dire que moi aussi, quand je suis allé à la Marine, je l'ai fait après avoir lu une quinzaine de livres et consulté tous les guides et avis des critiques culinaires, ouvert de vieux grimoires et pesé tous les pour et tous les contre. Mais la vérité, c'est qu'on est en 2018, et avec ma copine Victoria, on a fait un truc de 2018.
On avait vu un épisode de Chef's Table, entre autres, sur Alexandre Couillon et la Marine.
On avait dû voir le Chef's Table sur Alain Passard, et on... Voilà, c'était un peu un Graal pour lui comme pour moi.
En fait, on était assez passionnés par ce resto en regardant sur Netflix la série Chef's Table. C'était le premier épisode qui était sorti et on est aussi passionnés par la cuisine italienne. Et du coup, c'était assez évident et vraiment, ce chef nous a... On avait trop envie que ce soit notre copain parce qu'il a l'air trop cool. Et du coup, on s'est dit qu'on allait aller le voir un jour.
Et c'est vrai que je pense comme Emeline, qu'est-ce qu'il était cool, Massimo Bottura, dans son Chef's Table. Et c'est ça, je pense, la force de l'émission et l'impact qu'elle a eu pour cette nouvelle génération de très grands chefs. En fait, elle les a mis dans notre quotidien, elle a dépoussiéré le truc. C'est plus un truc de magazine vieillot qu'on retrouve chez le docteur ou chez les amis riches des parents. Maintenant, les 3 étoiles, ils sont sur la même plateforme que RuPaul et à un clic d'un show de stand-up qu'on aime. Avant d'aller plus loin dans l'aventure, on va tout de suite évacuer l'éléphant dans la pièce, l'argent. Et si on va passer une bonne partie de cet épisode à vous expliquer pourquoi c'est un très bon investissement, on va d'abord vous donner des pistes sur comment le financer. Aller dans un étoilé, c'est un peu comme un voyage, ça a un coût. Et comme pour un voyage, les coûts varient pas mal. Si comme Pharrell, vous allez à la Grenouillère dans le nord de la France, le menu 11 services sans les vins, c'est 145 euros. Alexandre Couillon, c'est environ 200 euros. Et si vous allez chez 3 gros en prenant la nuit, les vins, le menu complet, on approche du millier d'euros. Tout ça pour dire que l'aventure étoilée, ça peut aller de plutôt cher à ridiculement cher. Et pour récolter cet argent, comme nous sommes des jeunes gens modernes, on fait avec les moyens du bord. C'est mon cas par exemple quand je suis allé chez Couillon.
Et j'ai fait une cagnotte avec tes amis. Ce truc un peu horrible, mais qui sert pas mal.
Après des années de cotisation pour mes potes, il y a eu comme un retour de karma magnifique et magistral qui a fait que mes potes se sont tous mis la main à la poche pour m'offrir ce restaurant et l'offrir aussi à ma meuf.
Et plutôt que nous acheter, je sais pas, des casseroles ou un truc de Pax ou un truc... Enfin, nous faire une cagnotte relou ou je sais pas quoi, ils nous ont offert... une nuit à la Grenouillère avec le menu dégustation.
Je me demande si j'avais pas appelé mon conseiller financier pour lui dire ça va mon plafond, est-ce qu'on peut le... Tu vois.
Alors ça c'est la méthode 1 que nous appellerons méthode raisonnable, organisée, celle où on collecte de l'argent pour une occasion particulière auprès de ses amis. Et puis il y a la méthode 2 que nous appellerons méthode Constance, du prénom de sa créatrice.
Et un soir, on était dans un bar minable, en train de boire un mauvais vin, et on a un espèce de débat que t'as que quand tu bois du mauvais vin dans un mauvais bar, au sujet d'Aimé Jacquet. Et lui me soutient que Aimé Jacquet était à l'époque égérie, à l'époque de France 98, égérie flunch. Et moi, je lui dis, pas du tout, c'était les restaurants casinos. Et on s'engueule, on n'est pas d'accord. Donc je lui dis on parie, il me dit on parie quoi ? Moi pour rigoler je lui dis ben dîner chez Alain Passard, parce qu'on savait ce que ça coûtait. Et il me dit ok, on vérifie sur Google, j'ai gagné, on rigole, on n'en parle plus. Et je sais pas, peut-être un mois après, il m'envoie un message un soir, il me dit est-ce que t'es libre le 14 juillet ? Est-ce que t'as prévu un truc ? Non, pourquoi ? Il me dit écoute, c'est une surprise. Et il était sur le site d'Alain Passard, il m'a envoyé un message en me disant... S'il te plaît, faut vraiment que tu sois libre parce que rien que l'annulation, ça va coûter 200 balles. Enfin, il y avait vraiment un espèce de stress, mais il a tenu son pari.
À vous de voir votre manière, mais là, on arrive enfin d'étape 1 et vous avez trouvé le moyen de financer ce projet ambitieux. Arrive alors l'étape 2. Le grand jour est là et vous l'aviez peut-être oublié, mais avant d'être confortablement assis sur une belle table d'un restaurant hyper haut de gamme, il y a toute une journée à occuper et probablement même un petit voyage à faire. Donc là, préparez-vous à tout un tas d'éventualités. Ça peut être austère ou grandiose comme Ivan qui se retrouve à traverser la Suède pour aller au restaurant de Magnus Nilsson, Faviken.
L'endroit est magnifique, c'est au milieu des montagnes. Il y a une sorte de tipi à l'extérieur où justement il y a les réserves, les conserves, etc. Et c'est un peu comme une géante ferme très bien réaménagée. Et c'est au milieu de nulle part, donc c'est complètement dingue comme endroit.
T'es dans un restaurant qui est le restaurant en face de la gare d'une petite ville comme Rouen, qui, bon, sans vouloir être bien méchant avec Rouen, c'est pas magnifique, tu vois, ça a pas un charme dingue, c'est une petite ville assez banale. Et c'est un resto en face de la gare. Normalement, le resto en face de la gare, c'est plutôt une petite brasserie ou un PMU, tu vois, de classique. Donc c'est vrai qu'ils ont ce... Quand tu arrives chez eux, t'as pas l'impression d'être dans un petit écrin perdu au milieu. T'es pas comme chez Michel Bras ou des trucs comme ça. T'es dans quelque chose de qui paraît presque plus triste de prime abord, en fait. Mais dès que tu rentres à l'intérieur, tu comprends tout de suite que t'es dans un établissement qui n'est pas un bar PMU.
Et il est important ce cadre. Il fait aussi partie de votre aventure tout autant que les plats. Et il doit être pensé et choisi presque autant que le choix du chef. Que ce soit un triple étoilé à 10 minutes à pied de chez vous, ou à l'autre bout du monde, l'aller et le retour, sans vraiment y penser, resteront aussi comme des souvenirs heureux ou des anecdotes marrantes.
Nous, on dort au gîte de l'Aïeul, qui est un petit gîte, je crois que c'était un truc comme 35 balles la nuit. Donc on trouve ça encore à l'arrache, tu vois, genre deux jours avant, à fouiner sur la merde, comment on va faire et tout, parce qu'on n'avait pas le budget pour aller dormir une nuit à l'Aïeul, ça coûte au moins aussi cher que d'aller manger au restaurant. Et donc on arrive dans ce petit gîte et puis on commence à dire putain merde, comment on va faire. On trouve sur le site de l'Aïeul un numéro vers un taxi. Et donc du coup on appelle et là on tombe sur une nana, je sais pas, la cinquantaine, qui en fait fait taxi pour toute la vallée. Donc elle nous dit ouais, y a pas de problème. Par contre du coup moi j'arrive de l'autre côté de la vallée, donc si je viens vous chercher et vous ramener, il faut que je fasse en gros 70 bornes à chaque fois. Et donc c'était un truc comme 100 balles le budget tacos quoi, donc ça faisait un peu cher. Donc on abandonne cette idée là, puis on parle avec le patron du gîte qui est un mec super sympa. Et qui évidemment était allé à l'école avec Sébastien ou qui le connaissait bien, etc. Il nous dit bah écoutez moi il y a pas de problème, je peux vous emmener, je peux vous dépanner quoi. Donc du coup on part dans un espèce de camion un peu genre J9, un truc un peu d'utilitaire quoi. Et puis du coup on est hyper sapé avec ma meuf, on est là voilà, on se prépare pour aller manger dans un 3 étoiles et puis on se retrouve dans un décalage qui... ouais genre d'utilitaire un peu, tu vois, qui bouge avec des banquettes un peu flinguées. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on arrive dans ce restaurant 3 étoiles. Et donc, c'est notre premier contact.
Le voyage, c'est une chose. Mais le vrai casse-tête, l'imprévu qui arrive quand vous croyez avoir pensé à tout, la question, on mange quoi alors à midi ? Et oui, bêtement, vous avez validé le dîner, soulagé, tout était réglé, mais non. Il est 11h30 et vous avez faim. Et alors, quelle stratégie adopter ? On mange normalement et on prend le risque de se caler ? Ou on mange pas et on prend le risque de grignoter juste avant ? Comment faire pour préparer son estomac à dérouler le tapis rouge dans 12 heures ?
Ça a été un stress. Je me disais qu'il fallait surtout pas que je mange, parce qu'il fallait que je garde mon appétit. Et puis après, je me suis dit que c'était complètement débile, parce que du coup, j'allais me jeter. Voilà. Donc, j'ai grignoté un peu toute la journée. J'ai dû me faire des tartines de cancoyote, de cancoyote à l'ail. Et après, me taper sur les doigts d'avoir fait ça. Et puis après, me faire des udon froides dans une sauce, dans un tsuyu, pareil, que j'avais qui traînait. Enfin, j'ai un peu grignoté toute la journée, c'était une très mauvaise idée.
On a dû s'arrêter pour grignoter quelque chose en se disant bah tu fais un étoilé, il faut que faut pas que j'ai faim, faut pas que j'ai faut que j'ai de l'appétit, mais j'ai pas claqué un gros McDo le midi si tu veux, et en même temps j'ai pas fait pas manger quoi.
On est allé boire l'apéro avant dans un bar juste à côté, et en plus il y avait un apéritivo, donc on a un peu mangé avant, la grosse erreur fatale, et en plus on était un petit peu bourrés.
Bon, moi je me suis dit qu'il fallait quand même manger le midi, parce que en plus je suis allée en voiture, donc tu fais de la route, t'as pas envie de t'affamer non plus, donc j'avais mangé quand même un ramen à Nantes, juste avant. Et c'est plutôt les heures après où, en fait, je sais pas si c'est le stress ou quoi, mais t'as quand même envie de mettre des trucs dans ta bouche, mais t'as peur que le moindre truc, même un verre d'eau, te gâche ton repas d'après. Mais en fait, je pense que si tu t'affames, t'as mal au ventre, donc ça sert à rien. Je me rappelle qu'on avait... Genre, on s'était autorisé un demi de bière avant parce qu'on était un peu stressé et que. Mais on se disait, merde, quoi, on va avoir l'accord Mévin, on a bu une bière, c'est fini, ça va tout gâcher, quoi. Et en fait, non.
Moi, j'ai pris une bière de plus que toi, je crois.
Toi, je crois que t'as pris une pinte.
J'ai pris une pinte et
je crois que j'étais pas contente.
Peut-être que la différence s'est jouée sur le fait que. Parce que moi, j'ai vraiment eu le ventre très plein à la fin et je pense que c'est joué sur ce demi-litre de bière, en trop. Vous voyez le mythe du gastro étoilé cher où on mange rien.
Et là, tu découvres une crevette comme ça, petite, hein, toute seule. Tu cherches, tu dis, c'est pas possible, y a personne avec toi, quoi, t'es comme ça. Tu... Même la crevette, elle nous a regardé, elle a dit, je te jure, moi aussi, je trouve c'est abusé.
C'est un mythe, ça n'arrive jamais. Ou alors, ça arrive dans des faux restaurants chics qui sont surtout clinquants, mais jamais chez un grand chef. Spoiler, vous allez avoir plus faim. Faut juste que ça arrive le plus tard possible, parce que ne plus avoir faim dans ce genre de repas, c'est hyper énervant. C'est comme devoir rentrer tôt d'une soirée incroyable parce qu'on a mal à la tête.
J'ai commencé à plus avoir très faim, et en fait, le fait de m'en rendre compte, ça a créé une espèce de culpabilité de « Oh, mais quelle honte !» Mais là, il me reste 3 plats, et j'ai déjà plus faim, je sens que j'ai plus faim. Oh, ça y est, je sens que je vais plus avoir faim. Oh là là, oh non, j'ose même pas regarder le plat qui arrive. Oh, mais comment je vais pouvoir regarder le serveur dans les yeux si j'arrive pas à finir ?
Ce trop-plein à 2/3 du repas, c'est le truc qui me fait me demander depuis, mais comment ils font les aventuriers des étoilés ? Ces types qui les font tous comme un défi ? Ils doivent forcément avoir une technique de purge pour arriver le ventre parfaitement vide à la minute parfaite. Alors moi, j'ai pas de solution. Mon seul conseil, passez une journée normale, parce que vous voyez bien que stresser ne sert à rien. Maintenant, vous y êtes. Vous avez réussi l'épreuve du choix du restaurant, passé avec brio le niveau de la collecte et réussi à vous extirper des méandres de l'étape du déjeuner. Vous êtes assis, le spectacle peut enfin commencer. Mais alors, il va se passer quoi ?
T'as aussi ce stress quand même, par rapport à des restos que j'aime beaucoup et qui coûtent 20 €, quoi.
Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que devant vous vont défiler des plats hors du commun. Des amuse-bouches au dessert en passant par les entrées, vous allez être émerveillé par des trucs incroyables.
Un jus de crabe, parce qu'en fait, ils pêchent du crabe et ils pêchent aussi les petits crabes qui ne sont pas mangeables. Et pour ne pas les jeter, vu qu'ils sont morts, ils les pressent. Et en fait, ils apportent une presse géante à table. Enfin, c'est un comptoir. Et ils mettent en gros le contenu de la casserole dedans et ils pressent le tout. Et ça fait un petit shot de jus de crabe qui est vraiment incroyable. Mais c'est tout le processus. Si ouais. On t'apportait juste le jus de crabe, je dirais ouais, cool, un jus de crabe. Mais le fait
de la presse et tout.
Ouais, c'est chouette.
Mais si spoiler il y a, laissez-moi vous le dévoiler. Le gros twist de ce repas, la surprise, elle va venir des choses simples, celles que vous allez peut-être même snober en les voyant sur le menu.
Tu vois le troisième plat où tu vois gazpacho d'eau de tomate et tu te dis mais c'est une blague. C'est une blague. Je suis à l'arpège et le mec me propose un gazpacho de tomate que je peux acheter à Le Valais à Carrefour. Et en fait, c'était ça le truc le plus fou. C'était justement en fait les assiettes qui étaient les moins pompeuses, les moins prétentieuses, mais où en fait tu te retrouves à un truc délirant, indescriptible. Et donc là, il y avait cette espèce de gazpacho de tomate qui était absolument qui était le meilleur que j'ai mangé de ma vie. Et je ne sais pas ce qu'il a mis dedans. Je ne sais pas comment ça s'est débrouillé. Ça ne peut pas être juste que ces tomates sont sans pesticides. Tu vois, ça, c'était de la magie.
La meilleure assiette que j'ai mangée, c'est l'assiette de petits pois. Sur les aliments simples, on a un pouvoir de comparaison qui est plus fort parce qu'on les mange plus habituellement. Ce plat de petits pois, je ne sais pas s'il est encore à la carte, je ne pense pas, parce que du coup, c'était il y a 3 ans, mais c'était vraiment des petits pois sous un peu... Enfin, il y avait une huître, une genre de gelée de petits pois, et des petits pois. Et un jus de... Enfin, petits pois et une huître, quoi. Je ne me souviens plus du titre
du plat,
mais je me souviens vraiment de l'assaisonnement des textures, de l'iode, de l'huître. Et le moment où ça t'ouvre quelque chose à l'arrière de la tête d'orgasmique qui fait que tu t'es plus dans l'endroit où t'es. Tu dis voilà, par la cuisine, j'arrive à ressentir quelque chose. C'est beau, c'est bon et ça va au-delà de ça. Ça t'allume des petites lumières dans la tête que t'as pas eu depuis l'enfance presque.
Il y a des trucs que tu connais pas et qui sont hyper bizarres et surprenants, mais il y a des trucs que tu connais, et ces trucs que tu connais, c'est les meilleurs que t'as jamais mangé de ta vie, quoi. Genre la carotte, c'est la meilleure carotte que t'auras jamais mangé de ta vie, et ça, tout le monde, je pense, peut s'en rendre compte, enfin les gens que ça intéresse en tout cas.
Tu dirais que c'est aussi une des forces des étoilés, en tout cas de celui-là, d'arriver à faire d'un truc hyper banal et classique, de le sublimer quelque part. Comme tu parles de cette carotte, je sais qu'il y a eu un navet qui nous a vachement émus. C'est vrai, il y a un navet qui était le meilleur navet qu'on a jamais mangé de notre vie.
Ouais, qui était... On aurait dit, c'était un navet déguisé en navet, quoi. Il était 100 fois plus navet, enfin je sais pas. Il y avait de l'arôme de navet dedans, mais trop bon.
Et ce qui m'a marqué le plus, je pense, cette première fois, malgré tout, c'est quand même... C'est le saumon à l'oseille, tu vois, qui est un peu le plat historique de la famille. Je crois qu'il l'avait enlevé pendant un moment, justement voulant rompre un peu, je crois, avec la tradition familiale, mais surtout, je crois, le poids des étoiles passées et montrer qu'ils faisaient une autre cuisine. Et ils l'ont remis, tu vois, un peu comme ça, il ressurgit. Je crois pas l'avoir vu la dernière fois que j'y suis allé dans les menus, mais peut-être qu'ils le servent que le midi ou dans un menu plus réduit, je sais pas. En tout cas, ce soir-là, j'avais eu la chance de le manger. Et c'est vraiment ce saumon à l'oseille, comment dire, que, comme tu peux l'imaginer, quoi. C'est un saumon à l'oseille qui, visuellement, grossièrement, a une tête de saumon à l'oseille de cantine. Enfin, tu vois, c'est vraiment un pavé de saumon dans une sauce à l'oseille. Donc, tu as une assiette remplie de sauce avec un pavé de saumon au milieu, tu vois. C'est vraiment très, très loin des critères visuellement de ce que tu vois, ce qui semble attrayant maintenant, de ce qu'on voit partout, etc. Enfin. C'est vraiment la recette dans son plus simple appareil. Et c'était juste renversant, quoi. C'était incroyable.
En plein milieu de ce menu dégustation en 9 parties, t'as un serveur qui arrive avec une casserole d'aligot. Et c'est pas écrit sur le menu. Et il dit, bon, bah voilà, vous êtes dans l'Aubrac, vous pouvez pas passer à côté de l'aligot. Et puis c'est sûrement le meilleur aligot de la région. Et puis du coup, bah, le mec, il commence à étirer son aligot, donc qui est une purée de fromage et de pommes de terre. Et qui est la bouffe la plus réconfortante que l'homme ait jamais inventée. Et donc, toi, t'es déjà quand même bien repu, mais cet aligot-là, tu le manges avec une certaine délectation, parce que, pour venir à ce que tu disais, la façon dont il est amené est hyper, hyper humble, hyper décontracté, et hyper, hyper populaire, quoi. Genre, t'es dans un 3 étoiles, mais en fait, si on veut te faire bouffer de l'aligot, comme tu pourrais le faire... au restaurant Henri, place Voltaire à Paris à 3h du mat, ben, y a un peu de ça, parce que c'est un peu universel, et en tout cas c'est notre identité.
C'est ce qui m'avait le plus surpris, c'est que tu te rends compte qu'en fait, en dehors de toute cette, enfin pas de cette superficialité, mais en tout cas de toutes ces choses que toi tu ne peux pas faire chez toi, tu vois, ou que tu ne vois pas régulièrement, ou de tous ces, tu vois, de tous ces épices exotiques que tu rencontres pas, ou de ces techniques de cuisine que tu ne connais pas, que t'as pas l'habitude de voir, et de tout ça, bah la gastronomie, ça a du sens même en fait dans ces recettes simples presque du quotidien, enfin tu vois, que tu peux faire chez toi. Tu peux faire ce saumon à l'oseille chez toi, je suis pas sûr que tu le fasses aussi bien. Mais tu vois, c'est ça qui était assez, en fait, qui était vraiment non pas une découverte, parce que je savais qu'on pouvait faire de la bonne cuisine avec pas grand chose,
mais pas ce niveau de cuisine, quoi.
Oui, voilà, ouais, ce niveau de cuisine sur une préparation qui semble aussi simple et aussi classique, ça m'a pas mal bouleversé la première fois que j'y suis allé, ouais.
C'est par là que j'ai réussi à approcher l'essence de ce que ça devrait avoir comme goût en réalité, ouais. et en fait c'est ça la cuisine aujourd'hui, et c'est, enfin, après je te dis, après avoir fait des montagnes d'écrevisses pendant 50 ans, en fait la gastronomie elle s'est vraiment recentrée sur qu'est-ce qui est important, et je pense qu'il y a aussi une démarche vachement écolo-consciente derrière tout ça, où en fait les chefs, ils ont très bien compris que les légumes qu'ils cultivent aujourd'hui, ils les auront peut-être pas demain, et ils voient à quel point la qualité même nutritionnelle en fait des légumes, de la viande, de tout ça est en train de s'effondrer, et donc on dirait vraiment parfois qu'ils... moi Passard, j'ai l'impression que ces légumes, son légume, il le cuisine comme si c'était le dernier.
Cuisiner un légume comme si c'était le dernier, eh ben je trouve ça beau. Ça devrait être marqué dans tous les livres de cuisine. Et si le plat le plus technique et le plus décalé du repas vous rapportera une pluie de likes, le plus simple sera celui qui vous marquera pendant longtemps, peut-être à vie. J'étais aussi surpris que satisfait qu'on se retrouve tous autour de ce constat, malgré la diversité de nos expériences. Celui du plat simple, du petit légume presque négligeable, qui d'un coup devient la star du repas et nous marque à jamais. Et quand vous reviendrez de ce repas, personne ne vous croira, personne ne voudra vous entendre parler de l'incroyable navet, mais vous, au fond de vous, vous savez. Quand on mange ce niveau de cuisine, il y a presque quelque chose de l'ordre de la méditation. Déjà parce que les plats s'enchaînent avec un rythme incroyable. Ça traîne pas, c'est pas non plus expéditif, c'est exactement ce qu'il faut. Et de fait, une ambiance studieuse s'installe autour de notre étude des plats. On observe, on regarde, on goûte, on regoute, et sans le vouloir, on ne se parle plus.
Bah oui, et puis t'es focus. Tu vas, bah en vrai, quand tu parles en mangeant, enfin,
quand tu papotes entre les trucs,
entre les bouchées, bah tu t'oublies un peu ce que tu manges quand même. Enfin, moi, je sais que j'ai ça. Si tu, par exemple, si tu regardes devant la télé, tu vas être quand même focus. Tu vas pas toutes les deux minutes te dire, oh, c'est bon cette purée. Donc pour moi, t'es un peu obligé. Ouais, et puis, je pense que t'as besoin de... Parce que chaque bouchée est quand même un peu différente. Tu vois ? Comme quand tu manges une côte de bœuf maturée, bah en fait, chaque bouchée est différente. Donc, si tu parles de la première bouchée en disant « Ah, c'est bon » et que tu continues, bah non, reste concentré parce que c'est pas fini, en fait.
Il y a toujours une tante à un repas de famille qui dit un truc du genre « Ah, si on n'entend plus personne, c'est que c'est bon signe ». Et bien là, c'est pareil, mais multiplié par le nombre d'étoiles. Le repas touche à sa fin et la sentence est sur le point de tomber.
C'est pas mal parce qu'en fait, quand j'ai réservé la chambre, ils m'ont pris mon numéro de carte et j'ai fait directement un virement. Donc 3 jours avant, j'avais déjà payé la chambre. Et quand je suis arrivé pour après manger, je m'en étais pas rendu compte. Tu vois, c'est que plus tard, quand j'ai regardé mon compte en banque, que j'ai compris. Mais ça m'a un petit peu aidé, tu vois, que ça soit. J'ai pas l'impression de lâcher tout d'un coup. Ce qui n'a rien changé au final, hein, en termes de pur compte, ça n'a rien changé. Mais moi, ça m'a un petit peu aidé. Mais après, tu sais très bien. Enfin, voilà, je sais très bien que quand je paye un resto comme ça, Enfin, je le mets pas sur l'échelle des autres restos que je paye, ça a rien à voir, hein, tu vois. C'est pas comme quand j'en sais rien, quand je fais un resto et que je me dis, ah, tu vois, que je fais un resto sur un coup de tête parce qu'on a la flemme de manger chez nous ou qu'on est avec des potes dehors et qu'on se dit, tiens, faisons un resto, mais sans savoir vraiment où on va et que tu te retrouves à lâcher 40, 50, 60 balles pour un resto qui te plaît qu'à moitié ou t'es à moitié convaincu de ce que tu manges. C'est pas du tout pareil.
Je me souviens que quand il a payé, on a tous les deux, franchement, on a tous les deux regardé nos chaussures, on a tous les deux serré les fesses. Moi, je pouvais même pas le regarder. C'était un film d'horreur, quoi. Je pouvais pas le regarder mettre sa carte bleue, tu vois, dans la machine. Et on a fait une espèce de « Merci, bonne soirée !» Et on est sortis. Et là, mais il avait mais vraiment la goutte au front. Il me fait oh, « Je suis trop content que ma carte soit passée. » Ouais. C'est du soin à l'élastique. Il faut pas réfléchir. Il faut pas regarder la note. Il faut se dire « Ça va passer, ça va faire mal. » Mais après, on n'y pense plus.
Tu sais que tu vas y passer et que ça fait partie du truc et... Enfin, ça fait partie du process, du procédé. Autre chose que truc. Et la douloureuse, si tu as bien mangé, si tu as eu une expérience, tu le sais en réservant que tu vas payer ce prix-là, c'est de l'argent que tu as mis. Voilà, il faut pas y aller en se disant, je vais pas prendre de vin ou je vais faire attention. Peut-être je vais pas prendre le menu d'éducation parce que je vais prendre un truc moins cher. Non, si tu y vas. Il faut avoir prévu d'y aller et il faut y aller parce qu'on a envie d'y aller. Si tu n'as pas envie, il vaut mieux aller ailleurs. Il vaut mieux aller ailleurs.
Ouais, quitte à attendre 2 mois de plus et économiser 50 balles de plus pour vraiment faire l'expérience complète. Quoi.
Complète
pas, et pas y aller pour rien. Quoi.
Et vraiment avoir l'envie. Si tu vas dans un étoilé juste pour aller dans un étoilé, va dans une bonne brasserie. Ton estomac et ton cerveau seront aussi contents. Là, il faut choisir tes tables parce qu'il faut regarder, il faut se renseigner, il faut avoir envie.
C'est marrant comme leurs souvenirs sont tenaces. Moi, c'était il y a un peu plus d'un an, et j'ai encore en mémoire des images très précises de ce moment. Il me reste quand même une question à leur poser pour conclure cette aventure. Alors des semaines, des mois, voire des années plus tard, une fois que l'excitation est retombée, que la dépense a été amortie et que le coup de folie est loin derrière, est-ce que vous le referiez ?
Ouais, c'est une folie, quoi. Mais pour tout ce que... tous les souvenirs que ça m'évoque, pour tout la symbolique de ce moment-là. Et puis même, il y a quelque chose qui est très important, c'est le moment de partage. Parce que je sais que ce repas-là, c'est quelque chose que j'ai partagé avec ma copine, dont on va se rappeler toute notre vie. C'est con à dire, mais je prends souvent la comparaison avec un saut en parachute. Un saut en parachute, bah, ça doit coûter au moins 300 balles par personne, un truc comme ça, tu vois. Et un saut en parachute, bah, toute ta vie, tu te rappelles de ce moment où tu t'es jeté dans le vide à plus de 1000 mètres et que voilà. Et puis, si t'as fait ça avec ta meuf, bah, tu te rappelles ce moment où t'as regardé, machin. Bah, en fait, un restaurant 3 étoiles de ce niveau-là, ou avec cette symbolique-là, je pense que c'est comme un saut en parachute et finalement, bah, 2 fois 300 balles. Ça, c'est quelque chose, ça dérange pas de les mettre parce que ouais, ça va rester gravé pendant très longtemps et c'est une expérience globale.
Parce que c'est un truc d'une vie qui est tellement délirant que voilà, tu t'en souviens comme d'un voyage en fait, tu vois. Et que être déraisonnable en fait, moi je trouve que c'est un super bon investissement.
Il y a des gens que ça qui aiment manger et il y a des gens que ça obsède, tu vois. Enfin, il faut quand même une certaine obsession, je pense, pour le goût et la cuisine, pour être convaincu, tu vois, quoi qu'il en soit, que c'est une bonne chose d'y aller. Et après, moi, partant de là, je sais pas comment dire, mais tout simplement, j'ai l'impression d'avoir, en fait, j'ai l'impression de redécouvrir ou de découvrir des goûts que j'avais jamais ressenti avant. En fait, tout simplement, je crois que c'est ça, moi, le truc le plus important pour moi. Enfin, en tout cas, pour motiver, c'est que c'est souvent une découverte totale. C'est pas seulement genre, ah, cette viande, elle est encore plus fondante que je l'ai jamais mangée. Ah, ça, c'est encore plus, ce goût est encore plus doux, c'est encore plus. Non, c'est vraiment, pour moi, j'ai vraiment goûté à de nombreuses reprises dans ce genre d'établissement, et notamment chez Trois Gros. J'ai l'impression d'avoir découvert des aliments comme si je les avais jamais mangés, en fait, tu vois. Et c'est vraiment des sensations très, 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 très fortes, tu vois. Parce que manger, à un moment donné, oui, il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Oui, un haricot trop cuit, c'est pas bon, et un haricot bien cuit, c'est bon. Mais il y a vraiment, je trouve, quand t'arrives là, t'as un stade supérieur, quoi, tu vois, de découverte du goût, je trouve, quoi.
Ça vaut super le coup si t'as envie. Ça vaut. Enfin, je reprends l'exemple de Saturne, ça vaut une paire de baskets. T'as peut-être pas besoin d'une paire de baskets en plus. Va te faire un étoilé. À la fin, quand tes semelles seront usées, tu te souviendras encore de cette raviole de homard ou d'un truc comme ça qui t'a mis une claque ce jour-là, quoi.
Je pense que c'est ça, en fait, l'idée. Un mariage assez paradoxal entre un coup de folie et un investissement sur le long terme. Et c'est maintenant la fin de cette aventure. J'espère que ce guide vous aura servi. Vous pouvez le refermer et il sera là pour que vous le rouvrez pour jeter un œil si un jour vous aussi vous craquez. Alors, loin de moi l'envie de vous dire quoi faire, vous vous doutez bien, mais j'avais simplement envie de partager ces discussions que j'avais pu avoir hors micro avec des amis ou avec des gens que je croisais qui me faisaient toujours me dire « C'est fou quand même que ça nous ait tous marqué autant. » Et peut-être qu'un jour, vous allez prononcer cette phrase un peu inattendue « Et si on allait passer la soirée à Noirmoutier plutôt qu'un week-end à Londres ?» Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Parce qu'en fait, c'est un format, vous l'avez remarqué, un peu différent de celui de d'habitude. Et donc, on sera très content d'avoir vos retours. Je voulais remercier les invités qui ont participé. Victoria, Ivan, Constance, Emeline, Farel, Léo et Thomas. Toutes les adresses où ils sont allés sont à retrouver sur notre carte Mapster et dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, BouffonNE. Et pareil sur Instagram. On y mettra d'ailleurs quelques photos des plats à déguster. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes animée par moi, Guillaume Malissen, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son Charles de Cilia, montée et mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique, production et coordination, Laura Cuissard. N'hésitez pas à parler autour de vous de Bouffon, partagez, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et tout. À la semaine prochaine.